Je me souviens encore de mon tout premier culte. Alors, pour être honnête avec vous, je n'y avais pas compris grand-chose. Ce que je savais par contre, c'est que ça avait été pour moi un énorme choc culturel. En revanche, ce qui m'avait vraiment troublé, j'ai envie de dire positivement troublé, c'est le moment de prière au cours de ce culte. J'entendais des hommes et des femmes parler à Dieu librement, de cœur à cœur, comme s'ils le connaissaient vraiment. Il ne répéta pas des prières toutes faites, il semblait tout simplement être en relation avec une vraie personne, cette personne en l'occurrence étant Dieu. Alors ensuite j'ai franchi un nouveau pas, j'ai été à la réunion de prière, et là je me suis lancé, j'ai prié pour la première fois, à haute voix, j'ai dû vaincre un peu mon trac et mon stress, en me disant, ben, c'est mon Dieu, ce sont mes frères et sœurs, même si je m'en fous, je m'en fous, je suis en famille. Et voilà, je vous encourage à faire de même si vous êtes stressé à l'idée de prier à voix haute. Parler de notre cœur à celui de Dieu. Je pense que c'est une des définitions qu'on peut donner à la prière, donc à la relation avec Dieu. Pourtant, combien de fois ai-je eu l'impression, et je pense que ça doit être pareil pour vous, que mes prières ne passaient pas le plafond de la pièce où je me trouvais. Que je n'avais pas de contact réel avec Dieu, pas de connexion, pas vraiment de communion avec lui. Bien, ça arrive parce que les difficultés de notre vie, quelle qu'en soit la cause, font remonter à la surface nos véritables convictions par rapport à nous-mêmes, à notre sentiment de sécurité et à notre perception de Dieu. Comme un enfant qui se sent menacé et crie pour être reconnecté avec sa mère ou son père, nous devons en permanence être assurés que Dieu est disponible, attentionné et toujours accessible pour nous. C'est bien là le problème. Nous n'en sommes pas profondément persuadés. Alors, il peut y avoir une foule de raisons pour lesquelles nous éprouvons des difficultés à établir une connexion véritable avec Dieu. Mais je voudrais me concentrer sur trois d'entre elles aujourd'hui. Tout d'abord, nos idées préconçues sur Dieu qui reposent, on en a parlé dimanche passé, sur les modes et styles d'attachement que nous avons appris durant l'enfance. Pour le dire autrement, ce que vous vivez en termes relationnels avec les uns et les autres, vous vivez exactement la même chose avec Dieu. Vous ne pouvez pas être hyper connecté avec Dieu et déconnecté avec les autres. Ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Deuxième élément qui complexifie la donne relationnelle avec Dieu, c'est qu'il est légèrement invisible. Ce n'est déjà pas de la tarte quand on voit la personne, alors quand cette personne est invisible. Et troisièmement, la réalité de ce que nous sommes, du péché qui nous sépare de Dieu, trouble et déforme nos perceptions. Ça ne veut pas dire que lui, par notre péché, ne veut pas entrer en communication, c'est que notre péché à nous, nous dirigeant, parfois même on est inconscient de ce péché en nous, de ces péchés en nous, ils auront une influence sur la façon dont on va percevoir Dieu et notre relation avec lui. Si nous avons de lui l'image d'un père terrible, quand nous avons fait une bêtise, nous n'allons certainement pas à lui en parler. C'est aussi bête que ça. On va donc commencer par nos présuppositions, et on en a tous, concernant Dieu. Ces présuppositions, donc nos idées préconçues concernant Dieu et notre rapport avec lui, commencent souvent par la façon dont nous avons perçu nos parents biologiques lorsque nous étions très jeunes, et au cours de notre croissance, à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Là encore, des études ont montré que le point de vue d'une fille sur sa mère, donc c'est des études qui tentent de faire un lien entre notre vécu familial, dans la petite enfance, l'adolescence, etc., jusqu'à l'âge adulte, et le lien qu'on entretient avec Dieu, la figure paternelle que l'on entretient, que l'on voit en Dieu. Donc ces études ont montré que le point de vue d'une fille sur sa mère et d'un garçon sur son père sont susceptibles d'avoir un effet direct sur la façon dont ils perçoivent Dieu. La recherche a démontré qu'avec les deux parents présents dans le foyer, les filles possédaient une forte perception maternelle de Dieu et une perception plus modérée de lui comme père. Et cette influence provient donc à la fois du père et de la mère, parce que les deux sont à disposition, si je peux dire ça comme ça. Tandis que les garçons identifient presque exclusivement Dieu avec des traits masculins tels que la puissance, la justice, l'équité, donc l'équité morale, hein, et quelque part aussi la moralité, la loi morale. Autrement dit, les filles, mesdames, prenez-le hein, vraiment comme un avantage, les filles ont tendance à conserver dans leur perception aussi bien les attributs liés à la puissance que ceux liés à l'instinct nourricier, comme la compassion, l'attention bienveillante, l'empathie et le réconfort. Les filles vont intégrer ça beaucoup plus facilement que les garçons. Cette étude a également montré qu'à la vision paternelle de Dieu sont associés le pouvoir et l'autorité, tandis qu'à une vision maternelle sont associés l'accueil et l'attention bienveillante. Je vous rappelle quand même que quand l'Ancien Testament exprime à plusieurs reprises que Dieu a été saisi de compassion, ça traduit un terme hébreu dont la racine est le mot matrice, utérus. Quand Dieu éprouve de la compassion envers quelqu'un, c'est sa matrice qui s'exprime. Maintenant, si le comportement des parents s'écarte des rôles qui leur sont habituellement dévolus, avec par exemple un père figure parentale nourricière et une mère représentant le pouvoir et l'autorité, les enfants seront plus susceptibles de considérer Dieu à la fois comme puissant, attentionné et bienveillant, puisqu'objectivement, le père va, dans son fonctionnement avec l'enfant, manifester de la tendresse, de l'attention, de la câlinité, appelez ça comme vous voulez. Hein. Et la maman, elle peut exprimer ça aussi, mais elle va en plus exprimer parfois de l'autorité. Et quand c'est les deux personnes référentielles de l'enfant, des figures d'autorité, fonctionnent comme ça, manifestent ça, l'enfant va grandir avec une vision de Dieu plus équilibrée. Je ne sais pas si vous me suivez. Prenons un exemple bateau. Hein. Si l'image, je pense que ça a été le cas, en tout cas en Occident pendant des siècles, si pas des millénaires, si l'image du père est essentiellement liée au pouvoir et à la discipline, je vous laisse deviner ce que l'évocation d'un Dieu père aura comme écho dans le cœur d'un enfant. Si pour lui, son père terrestre, ça a été tac, 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 toute sa vie durant. Si à côté de ce rôle traditionnel, les parents adoptent des comportements qui le contredisent, par exemple des pères montrant un soutien affectif réel et des mères une forme de puissance, ces attitudes vont influencer fortement et d'une façon positive la perspective que leur enfant aura de Dieu. Encore une fois, cette perspective sera plus équilibrée. Alors, je ne suis pas en train de dire, pour que ça soit clair, qu'un homme n'est pas un homme ou qu'une femme n'est pas une femme, mais bien que les clichés liés aux deux sexes sont certainement à revoir. Je vais le dire simplement, pourquoi un homme ne pourrait-il pas être tendre et câlin? Pourquoi? Il y a quelques mois de ça, dans une réunion, j'ai une collègue pasteur hein, qui venait d'accoucher d'un petit garçon, enfin voilà, et je vois le papa, son mari, donc s'occuper du petit. Et j'ai dit, c'est cool, hein, j'ai dit, il s'en occupe bien, il est vraiment tout tendre et tout. Oui, oui, c'est son côté féminin, là j'ai failli l'étrangler. Non, c'est pas son côté féminin, c'est son côté masculin, quoi. Oui, mais ça dit quelque chose des archétypes. Hein. Un homme, quand il est tendre, c'est son côté féminin. Dans quel film? Quand vous me voyez, vous pensez à quelque chose de féminin, vous? Sans blague. Donc, pourquoi un homme ne pourrait-il pas être tendre et câlin et une femme avoir de l'autorité? C'est pas trop quand même, hein, mesdames. Donc, par le biais de son implication émotionnelle avec ses enfants, le père joue donc un rôle indirect dans l'image que ses enfants auront de Dieu comme étant bienveillant. Alors, lorsque les pères sont absents, à notre époque, vous le savez comment, en Occident, surtout en Belgique en particulier, on n'arrête pas de dépenser des thunes pour des familles dites monoparentales. Et quand on parle de ça, c'est rarement le père qui est avec les enfants, mais c'est la mère, souvent, qui s'y colle. Donc quand les pères sont absents, qui est une réalité sociologique forte aujourd'hui, ils sont susceptibles d'être, c'est le seul avantage, idéalisés. Et il est important de souligner ce point parce qu'il a été démontré que l'image que l'on se fait de Dieu est davantage déterminée par le parent idéalisé, parce qu'il n'est pas là, on peut donc en rêver et se l'imaginer, se l'inventer, que par le parent physiquement présent. Donc si le père est présent dans le foyer, l'enfant développera une vision de Dieu à la fois puissante et stimulante, s'il rentre dans l'affect, quand même avec son enfant, une vision plus équilibrée que si le père est absent, mais il aura, si le père est présent, des ajustements à faire par rapport à l'image renvoyée par son père. Pourquoi ? Parce que son père n'est pas parfait. Donc, le parallèle qu'il fera avec Dieu sera impacté par son père, mais à un moment, dans sa trajectoire spirituelle, l'enfant devenu grand devra de toute façon comprendre que son père céleste n'est pas son père terrestre, et que si son père terrestre a beaucoup de défauts, son père céleste n'en a aucun. Alors, dans le cas des pères absents ou émotionnellement distants, c'est-à-dire ils sont là, mais en fait, ils n'y sont pas, et croyez-moi, c'est, à l'heure actuelle, c'est une catastrophe. Hein. On peut être là donc sans être présent à l'enfant affectivement. Dans ce cas-là, Dieu, et ça c'est une bonne nouvelle, Dieu peut devenir un parent parfait, idéalisé, une sorte de figure d'attachement, de substitution pour l'enfant. Certains sont donc littéralement élevés par Dieu lui-même quand ils le rencontrent dans l'enfance. Et cela ne doit pas trop nous étonner puisque la Bible relate au moins, à mon sens, un cas où Dieu a été le père d'un enfant dès son jeune âge, juste après qu'il soit sevré. Et je veux parler, mais vous avez tous compris, j'en suis sûr, connaissant vos connaissances bibliques, je veux parler du petit Samuel, qui deviendra un grand prophète. Petit Samuel, mais grand prophète. Je ne vais pas vous réduire l'histoire. Enfin, sa maman, Anne, est stérile, ne sait pas avoir d'enfant, ce qui, à l'époque, dans l'Israël primitif, est une catastrophe, parce que la femme n'existe qu'au travers de sa capacité à donner la vie. Pourtant, son mari l'aime profondément, voilà, il l'aime, même si elle est stérile, peu importe. Et un jour, elle va, je crois que c'est à Bethel, donc là où on sacrifie à Dieu, et elle prie en pleurant, elle dit « Si tu me donnes un enfant, un fils, je te le rendrai, il te servira. » 9 mois plus tard, elle est enceinte, et une fois qu'elle a sevré l'enfant, elle la porte au prêtre Élie, au grand prêtre Élie, qui est le grand prêtre à l'époque. Une fois sevré, donc, elle apporte cet enfant à Élie, au prêtre, pour qu'il serve Dieu, qu'il apprenne à servir Dieu. Et il y a un verset, vous me direz que ce n'est pas beaucoup, mais il y a un verset faisant référence au lien entre Dieu et le petit Samuel lui-même qui me paraît intéressant. C'est en 1 Samuel 2,21. Voilà ce que dit ce verset. On peut passer à côté, hein. Mais moi je pense que ce n'est pas anecdotique, il n'y a pas de détail dans le texte biblique. Hein. J'ai été vérifié dans l'hébreu, ça a été confirmé. Parfois nos traductions sont justes. Hein. Le jeune Samuel grandissait, écoutez bien, auprès de Dieu, pas devant Dieu. Ça c'est une formulation de l'Ancien Testament qu'on trouve beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Ils sont devant Dieu, une sorte de relation, mais devant. Là c'est Dieu qui est auprès de Samuel, à côté de lui. Bon, si on pousse l'image jusqu'au bout, il lui tient la main, si vous préférez. Il faut s'imaginer ce petit coco. Hein. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que le prêtre Élie, qui était un homme, en poste à l'époque, n'ait pas pris soin du petit. Il lui a demandé à manger, etc. Il lui a appris des choses sur Dieu, ça c'est certain. Donc, que cet homme ne lui a rien appris. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais il a en tout cas fait clair pour moi que c'est bien Dieu qui occupe la fonction paternelle auprès du futur prophète. Ce n'est pas Élie. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas confié la responsabilité de figure paternelle à Élie ? Ben c'est très simple, le fameux prêtre, il a 2 fils et ce sont 2 baltringues. Ce sont 2 vauriens, 2 imbéciles, 2 crétins congénitaux, 2 personnes, 2 gars... qui n'en ont rien à battre de Dieu. Ils n'en ont rien à faire. Ils n'ont aucun respect pour leur père, aucun respect pour Dieu. Le pire étant qu'à l'époque, rappelez-vous, la prêtrise passe de père en fils. Et Dieu dit, ces deux saints ne vont jamais hériter de quoi que ce soit. D'ailleurs, à un moment, je passe les détails, Dieu même annoncera à Élie que sa lignée sacerdotale s'éteindra. Il n'y a plus rien qui peut sortir bon de cette lignée. Donc c'est clair que Dieu n'allait certainement pas demander à Élie de devenir une figure parentale pour le futur prophète, pour Samuel. Il va assumer cette responsabilité lui-même. Si on le rapproche plus proche de nous, si on essaie de réfléchir à ça, enfin moi je peux en parler, moi je n'ai jamais eu de pasteur. Spirituellement, je pourrais dire, je me suis fait tout seul. Mais bien sûr que non. Moi, mon berger, ça a toujours été le Christ. Donc les baffes venaient dans l'eau tout de suite. Donc ça se passait comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des êtres humains qui m'ont aidé, ce ne serait pas juste de dire ça. Mais je n'ai jamais eu un pasteur où je pouvais lui dire, tu ne vas pas bien, ça je ne sais pas, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu penses? Jamais. Alors qu'est-ce qu'il a fallu faire? Enfin, moi, je n'ai rien fait en fait. Ben, Dieu a dû devenir ma figure paternelle de référence. Voilà. Ça va, vous suivez? On va en venir donc aux présuppositions et à cet attachement sécurisé. Rappelez-vous les quatre figures de style d'attachement. Donc la première, c'est le style d'attachement sécurisé. Vos parents vous ont sécurisé, affectivement. Alors, ceux qui sont dans ce modèle-là, ils sont simplement dans ce modèle parce que leurs parents ont été suffisamment bons, alors pas en termes de capacité encore une fois, mais de bonté envers eux. Ils se sont donc, ces enfants, sentis sécurisés. Et par ailleurs, lorsqu'ils se sont sentis menacés au cours de leur tentative d'exploration du monde, ils ont pu trouver en leur géniteur un refuge d'amour et de sécurité, même dans les moments difficiles ou plus sombres. Cela explique qu'en général, il y a des exceptions, mais qu'en général, il n'est pas très difficile pour eux de faire le lien entre leurs parents et le Dieu Père. En tout cas, c'est beaucoup plus facile que pour les autres. Parce qu'ils supposent tout naturellement que la figure d'autorité suprême de l'univers est encore plus aimante, plus puissante, réconfortante et protectrice que leurs parents. Ils ne sont pas surpris ni irrités quand Dieu semble ne pas les protéger de tout mal et ne leur donne pas tout ce qu'ils veulent en permanence, parce que leurs parents ne l'ont pas fait. Ils sont en fait convaincus qu'un bon parent, qu'il soit humain ou divin, comprend et rassure ses enfants tout en sachant que les surprotéger ne les aide pas à grandir et à devenir des êtres humains matures et forts. Dans ce modèle-là, l'apprentissage de la paternité de Dieu, ça se passe plus ou moins bien. Ça prend du temps, hein, mais ça se passe plus ou moins bien. Parce que les racines sont bonnes. Maintenant, si on passe aux présuppositions style d'attachement anxieux, ça se complique un peu. Mais ça, vous en doutiez sans doute. Beaucoup d'entre nous viennent à Dieu avec donc des idées préconçues, très différentes quant à sa nature et à la façon dont il veut être en relation avec nous. En fait, ceux qui sont anxieux se sentent insécurisés dans cette relation avec Dieu. Alors, ce n'est pas pour ça qu'ils ne chantent pas le dimanche matin. Pas pour ça même qu'ils ne peuvent ne pas danser devant Dieu, pourquoi pas. C'est pas pour ça qu'ils ne lisent pas leur Bible. Mais ils font tout ça en espérant que ça va plaire à Dieu. Ah oui, mais faire des choses pour son Père, pour que le Père soit content, et les faire parce qu'on aime son Père, on n'est pas dans le même monde. Hein. Vous comprenez la différence? Alors c'est vrai que c'est chrétien, puisque c'est de ça dont on parle, chante, prie, étudie pour lui, car ils aspirent profondément à trouver la sécurité qui, selon eux, va venir de la fierté éprouvée par le Seigneur à leur égard. Je suis fier de toi. C'est très bien ce que tu fais. Ces personnes peuvent parfois citer par cœur des dizaines, voire des centaines de passages bibliques sur l'amour de Dieu et sur sa bienveillance, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'arrivent tout simplement pas à le croire et en vivre. Quand il manque un culte ou un temps de méditation personnelle, ils sont souvent, pour ne pas dire toujours, envahis par l'anxiété et la culpabilité, comme si Dieu était en colère contre eux. Je pense que ces exemples doivent nous dire quelque chose, me semble-t-il, en tout cas certains d'entre nous. Alors, nous avons soif de Dieu, mais nous exigeons aussi qu'il nous protège pour que nous ne nous blessions plus jamais. Et nous sommes forcément amèrement déçus quand il ne fait pas le nécessaire pour nous tirer d'affaire, alors que nous sommes certains qu'il devrait le faire, puisque par définition, il est là pour ça. Ces personnes recherchent Dieu de façon très active et essayent véritablement de lui plaire, mais pour être protégées et acceptées de lui. Alors que la protection de Dieu, ben nous l'avons, ainsi que son acceptation, et ce, quoi que nous fassions. C'est un peu la définition d'un père. Hein. Il ne va pas dire que ce que fait son enfant est bien si ce n'est pas le cas, mais il ne va pas le foutre dehors à chaque fois qu'il va faire une bêtise. Hein. J'aurais passé beaucoup de temps dehors de ma maison, la maison paternelle, moi, à ce tarif-là, je pense. En fait, de tous les styles relationnels, c'est mon avis, ça, hein, ça n'implique que moi. Pour moi, de tous les styles relationnels, celui-ci est probablement le plus troublant, spirituellement parlant. Parce qu'il fait de ces personnes des personnes en fait extraordinairement actives pour Dieu. Ils lisent des livres, ils écoutent des messages, ils prient pendant des heures, ils vont à toutes les réunions d'église. Et c'est pas mal de le faire, hein, ne me dites pas encore une fois ce que j'ai pas dit. Hein. Mais ils espèrent en permanence en faire assez afin de gagner l'approbation du Seigneur et se sentir reliés à lui. Alors imaginez, et ça arrive, hein, imaginez ce type de personne ayant ce type de style affectif. Imaginez cette personne dans une église plutôt légaliste, où le faire remplace toujours l'être, où l'important est d'être présent et où la maturité spirituelle est évaluée au nombre de rencontres auxquelles vous assistez. Et croyez-moi, ces modèles-là, il y en a pléthore. Hein. Donc on va amplifier, l'Église à ce moment-là amplifie le dysfonctionnement de la personne, plutôt que l'aider à rééquilibrer son fonctionnement. Vous comprenez maintenant pourquoi tant de responsables d'Église courent dans tous les sens, mais sont incapables de parler véritablement de relations et de vie spirituelle, et pourquoi l'on bombarde certains de titres parce qu'ils sont fidèles à la réunion de prière. Je fais partie d'autres églises avant de faire partie de celle-ci. Je me suis toujours battu contre cette vision des choses, mais ça n'a forcément pas fonctionné puisque toute la structure ecclésiale était basée sur ce modèle. Pour dire autrement, ce modèle est très représenté dans la société humaine. Alors, le drame, parce qu'il y en a un, le drame, c'est que toutes ces personnes resteront seules avec leurs ressentis, n'osant en parler à personne et pensant que les autres, eux, connaissent une relation profonde avec Dieu parce qu'ils en font plus qu'eux. Il arrive, dans certains cas de figure, que ces personnes se sentent à certains moments proches de Dieu. Ben ça, c'est la grâce. Hein. Ces temps peuvent être même presque extatiques, mais lorsque ces sentiments d'intimité déclinent, elles se retrouvent face à elles-mêmes, se demandant quel est leur problème, puisque cette relation n'est plus là, cette communion n'est plus là. Elle s'est arrêtée, semble-t-il, en termes de ressenti. Nous avons donc tous compris, je pense, que la difficulté de la relation avec Dieu vient moins de lui que de nous. Et dans le cas spécifique des personnes de type anxieux, du sentiment de ne jamais être à la hauteur, puisque c'est le sentiment que leurs parents leur ont diffusé encore et encore et encore. Leurs parents et puis d'autres, hein, évidemment. On ne sait, les relations sociales d'un enfant, d'un ado, ça ne se limite pas aux parents. Mais c'est quand même les parents qui sont les plus importants. Si on savait... Moi, je remercie... Je parlais de grâce de Dieu. Je remercie quand même, je pensais à ça hier, je remercie quand même le Seigneur d'une chose, au moins une chose, c'est qu'on ne comprend pas ça avant de faire des enfants, parce qu'autrement, on n'en ferait plus. Quelle responsabilité! Et puis la démographie sera encore plus en baisse qu'elle ne l'est, puisqu'en Belgique, nous sommes à 1,02 bébés. C'est pas assez. Passons aux présuppositions de ceux qui ont un style d'attachement distant. Alors, ces personnes ont un lien, ça, dans l'énoncé, ça va passer comme un oxymore, hein, comme une sorte d'antagonisme, d'antithèse, appelez ça comme vous voulez. Mais... Donc, ces personnes ont un type, ceux qui ont donc un type d'attachement distant, ont généralement une relation avec Dieu sans lien de dépendance. C'est un peu vrai bizarre, mais c'est exactement ça. Ce qui signifie quelque part qu'ils n'ont en fait aucune relation du tout, dans les faits. Ils ont tendance à être reconnaissants pour les faits relatifs à leur salut, à la mort et la résurrection de Jésus, mais ils sont plus enclins à se concentrer sur les petites choses qu'ils peuvent faire dans l'Église, par exemple, dans leur esprit, s'ils font ces choses, ils font toutes ces choses pour Dieu. Ils attachent plus d'importance à ça, aux petits trucs superficiels, qu'à la relation même qu'ils sont supposés entretenir avec Dieu. Quand d'autres chrétiens autour d'eux parlent de relation ou d'intimité avec Dieu, ou de l'amour de Dieu, ils n'aspirent pas vraiment à connaître cette relation et cet amour. Ils vont parfois même, j'ai vécu ça dans des groupes, hein, ils vont même parfois reconnaître qu'il est bon pour les autres d'être proche de Dieu. Ça, c'est sympa, si tu es proche de Dieu, c'est super, hein, tant mieux pour toi. Mais cela n'est pas vraiment envisageable pour eux-mêmes. Et lorsque dans leur entourage, des personnes expriment un niveau émotionnel élevé, que ce soit au sujet de leurs propres besoins ou de leur expérience avec lui, ils s'éloignent de ces personnes car ils se sentent intérieurement mal à l'aise. Pour ces personnes, Dieu semble lointain et elles pensent qu'il ne sera jamais là pour elles et qu'il ne les aimera jamais vraiment. Encore une fois, pourquoi ? Parce que leurs parents n'ont pas accueilli leurs besoins émotionnels fondamentaux. Ça, c'est pour les styles d'attachement. Bon, j'ai fait la version courte, évidemment, je ne vais pas non plus vous abreuver de trop d'éléments, parce que le but, c'est pas de vous embrouiller. Passons maintenant à la nature invisible de Dieu, qui est aussi une sorte d'obstacle. Alors, si les trois modèles que je viens de définir, dont je viens de parler en tout cas, sont générateurs de souffrance dans la relation avec Dieu, ils ne sont pas la seule raison pour laquelle nous avons des complications à être en relation avec lui. Dieu est invisible, et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est le cas de le dire, ça nous pose un léger problème. Lorsque nous parlons à quelqu'un face à face, ça nous arrive quand même, j'espère, nous voyons les expressions de son visage, nous entendons sa voix, nous pouvons même, grâce à la communication non verbale, parce que tout est communication, mes amis, pas besoin de parler pour communiquer. Grâce à la communication non verbale, son attitude générale, l'attitude générale de cette personne, sa façon de se tenir, ses mimiques, ses gestes, ce qu'il fait avec ses mains, jusqu'à ses tics, s'il en a, vont permettre d'évaluer à quel point il veut vraiment dire ce qu'il est en train de dire. Et c'est là que vous vous dites, je ne dirai plus jamais rien à Yves. Ben oui, communiquer, c'est être à l'écoute de tout ça aussi. Même au téléphone, quand vous téléphonez à quelqu'un, la voix est assez remarquablement reproduite. Hein. Évitez quand même les situations, les conversations difficiles au téléphone, hein, parce qu'encore une fois, la personne ne voit pas votre attitude non verbale et votre réaction physique, et elle en a besoin pour interpréter ce que vous dites. Si je joue au téléphone à quelqu'un, t'es vraiment une cloche. Hein. Il va entendre, il me traite de cloche. S'il me voit et que je souris en le disant, ce qu'il ne va pas voir au téléphone, il va percevoir l'information que je lui donne de manière très différente. Je dirais qu'au bout, j'aurais quand même dit que c'est une cloche. Mais d'un côté, je l'aurais dit de manière gentille, de l'autre côté, moins. Il le percevra, en tout cas, beaucoup moins. Il faut préciser que je ne traite jamais personne de cloche. En public. Chaque relation d'humain à humain, vous l'aurez compris, hein, c'est le but de ma petite démonstration, inclut une dimension physique. Même le souvenir d'amis proches que vous n'avez plus vu depuis des années, quand vous y pensez, vous visualisez le physique de la personne, les situations sympas que vous avez connues avec cette personne, ce qui vous encourage souvent à reprendre contact d'ailleurs. Même vos souvenirs dans ces cas-là sont basés sur des interactions physiques. Et c'est là que cela se complique pour nous. Car comme l'a dit Jésus à la femme samaritaine, rappelez-vous, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et moi, j'admire cette femme parce qu'elle a compris ce que Jésus dit. Et c'est une pauvre samaritaine qui, et ce n'est pas raisonnable, a eu 6 maris, enfin 5 et un concubin. Et quand je dis les textes bibliques, j'ai l'impression que tous les gens à qui s'adresse Jésus comprennent toujours tout ce qu'il dit ou du premier coup, alors que nous, on a besoin de volumes écrits par des théologiens pour comprendre même une phrase de ce que Jésus enseigne. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Nous ne pouvons pas le voir, Dieu. Nous ne pouvons voir que les signes évidents de son existence. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci, quant à lui, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles, mais à partir de l'invisible, en fait, de ce que nous ne voyons pas. Tout ce que nous voyons, dit l'auteur, a été créé de ce que nous ne voyons pas. Nous n'avons pas d'accès, pour l'instant, d'accès visuel à ce monde invisible. Pour nous, il reste invisible. Et comment peut-on être connecté à ce monde invisible ? Par la foi. Alors c'est intéressant, je suppose que pour les chrétiens d'entre nous, vous êtes convaincus que Dieu a créé le monde. Comment est-ce que vous êtes convaincus de ça ? Vous y étiez ? Ben, vous le savez pourquoi. Parce que vous avez hérité, Dieu vous a donné la capacité de croire. Et cette foi, c'est une certitude, ça n'est pas une éventualité, c'est une certitude. Donc, si on revient au monde créé, sans la foi, il est impossible de voir Dieu dans la création, ce que disait le cantique d'ouverture. Alors, là où ça se complique, parce que là je parle de gens qui ne croient pas, on peut comprendre qu'ils ne voient pas Dieu dans la création puisqu'ils n'ont pas la foi. Oui, mais il arrive que même des chrétiens ne voient pas Dieu dans la création. Donc, si vous voulez plus de détails sur la présence de Dieu, soyez présents à Assès en novembre et décembre. J'aurai le plaisir de vous enseigner toute la journée là-dessus. Ou alors vous allez peut-être chercher certains messages que j'ai déjà donnés sur le sujet, sur le site internet de l'Église. Le Dieu invisible se rend visible au travers de la création, mais aussi au travers de l'Église. Et à chaque moment de notre journée, il faut apprendre à voir. Pierre de Caussade, un prêtre catholique, a écrit un livre extraordinaire sur le sujet qu'il a appelé « Le sacrement du moment présent ». Vous voulez voir Dieu, c'est maintenant. Ce n'était pas là, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Chaque seconde de votre vie est une possibilité de rencontre et de connexion avec Dieu. Il faut apprendre à se concentrer, à faire de sa vie un mouvement perpétuel de concentration vers la présence de Dieu. Mais je ne vais pas prêcher là-dessus maintenant, je dévie. Ceci étant dit, ça demeure quand même pour beaucoup d'entre nous, et moi compris, hein, à certains moments en tout cas, difficile. Parce que nous ne pensons simplement pas le chercher, le trouver dans le décor ordinaire de nos journées. Et pourtant, c'est là qu'on le trouve. De l'immensité de l'espace à la complexité du code génétique humain, la création tout entière proclame que Dieu est grand, qu'il est le créateur et est attentif à chacun des détails de notre vie. Ça aussi, c'est un problème. Penser qu'un Dieu pareil s'intéresse au petit coco que je suis. Difficile à intégrer, ça, quand même. Enfin, si ça, vous avez facile à le faire, c'est merveilleux. Hein, mais moi, il ne faut pas que j'y réfléchisse de trop. Hein. Mais beaucoup de chrétiens disent, mais qu'est-ce qu'il en a à faire de ma vie, quoi ? Il a autre chose à faire, ben non, c'est sa priorité. Dans ce sens-là qu'il est père aussi. Hein. Le roi David l'avait déjà bien compris, lui qui écrit dans le psaume 8. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis qu'est-ce que l'homme, autrement dit lui-même aussi, hein, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. À cette question, Jésus a répondu dans le sermon sur la montagne. « Votre Père s'occupe des petits oiseaux. » Ne pensez pas que vous valez plus que les petits oiseaux. Dieu se soucie de l'homme et prend soin de lui. Le journaliste chrétien Philippe Yancey écrit dans son livre « Atteindre le Dieu invisible » que l'une des caractéristiques de Dieu est le fait qu'il se cache. Ésaïe l'avait dit aussi. « Seigneur, je sais bien qu'ils font des idoles, Israël, mais on peut comprendre, tu es un Dieu qui se cache. » Il y aura beaucoup de choses à dire sur cette notion du Dieu qui se cache. S'il était un être physique, imaginons deux secondes, que Dieu soit un être physique, son corps, s'il est physique, il a un corps, son corps remplirait tout l'univers. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent. Il est partout. Il se cache en fait pour nous protéger, en tout cas encore pour le moment, mais aussi parce qu'il favorise ainsi le développement de la foi comme connexion entre lui et nous. Donc, que nous, et ça, il faut le comprendre, parce que ça aide. Que nous le cherchions comme lui nous cherche d'ailleurs, fait partie de son plan pour nos vies. Parce que ça nous oblige à changer de priorité. Ce n'est pas acheter la baguette le midi qui est la priorité de Dieu. C'est qu'on le cherche et qu'on achète la baguette avec lui. Qu'on fasse la vaisselle avec lui. Qu'on nettoie par terre avec lui. Qu'on passe du temps dans la prière avec lui aussi, c'est sympa. Que l'on fasse tout avec lui. Toujours Yancey, le journaliste, dit encore ceci, est-ce que Dieu complique le jeu pour le plaisir de se faire découvrir? Parfois la Bible le dépeint comme celui qui propose et parfois donne la chasse. Dès qu'on pense l'avoir trouvé, on devient comme Ésaïe cherchant celui qui prend la fuite. Il est passé par ici, il repassera par là. Nous savons déjà que dans toute relation avec lui, il met l'accent sur la foi qui ne peut s'exercer que dans les circonstances qui permettent le doute, telles que la dissimulation de sa présence. Ça évolue votre foi aussi. Si vous avez l'impression que quand vous ne le ressentez plus, vous ne le voyez plus, vous n'avez plus trop de conscience, que vous êtes sec, vous doutez de sa présence, ça dit quelque chose de la densité de votre foi. Ce n'est pas un jugement, ça permet d'évaluer sa foi, parce que c'est ça qui compte. Alors certaines personnes, il y en a beaucoup, refusent de croire à moins de pouvoir voir et sentir Dieu. Mais je pense que ces personnes sont en bonne compagnie parce qu'il y a quand même un exemple dans la Bible, c'est notre ami Thomas, un des 12, rappelez. Thomas, je rappelle, a vécu 3 ans avec Jésus. Je ne juge pas Thomas encore une fois, je suis content d'émettre des faits. Thomas a vécu 3 ans avec Jésus. Il a vu les miracles. Il a entendu son maître annoncer sa mort et sa résurrection. Et pourtant, lorsque les apôtres, les autres, lui annoncent que le Christ est ressuscité, qu'ils l'ont vu, là on est dans le visuel, ils l'ont vu, voici ce qu'il dit. On commence par ce que disent les disciples. Nous avons vu le Seigneur, ils sont tout contents. T'es pas de bol, t'étais pas là, on te le dit, on l'a vu, il est vraiment ressuscité. Thomas répond, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Un peu cartésien sur les bords, Thomas. Ton embêtant, les cartésiens. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison de Thomas et se trouvaient avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous », puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et remarque et regarde mes mains. » Ça veut dire que Jésus n'étant pas présent, quand Thomas a fait la première réflexion, « Je n'y croirai que s'il me montre », Jésus a entendu ça. Comment ça se fait? Il était présent même s'il n'était pas là. Il n'était pas visuellement visible à ce moment-là, mais Jésus, tout en n'étant pas visiblement, il était là quand même. Il a entendu ce que Thomas a dit aux autres disciples. Je ferme la parenthèse. Avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est-à-dire, heureux nous. N'empêche, est-ce qu'on ne peut pas un peu s'identifier à Thomas, de temps en temps? Bah, je crois, hein, Seigneur, mais si tu pouvais me montrer quelques résultats tangibles, alors que le plus beau résultat tangible, c'est nous-mêmes. Hein. Ben oui. On ne lui poserait même pas cette question s'il n'avait pas fait éruption dans nos vies pour nous sauver, nous guérir, etc. Alors, faisons-nous partie de ceux qui doivent voir pour croire. C'est le même Thomas qui, un peu avant la résurrection de Lazare, disait « Si notre Seigneur va à nouveau à Jérusalem, en Judée, ils vont le mettre à mort. Allons-y, il dit ça aux autres disciples, allons-y pour y mourir avec lui. » Ben voyons. Donc même après tout ce temps, Thomas était resté un sceptique. Alors son problème n'était pas qu'il devait voir pour croire. Pendant 3 ans, il a fait que ça, il a vu pendant 3 ans. Son problème était qu'il devait encore voir pour croire. Encore voir. Encore demander à Dieu de lui montrer. En ce qui nous concerne, nous avons vu, sans avoir vu. Ce serait un bon sujet de bac de philo, ça. Pour moi, la plus belle, et je le pense, hein, même si je n'ai pas facile avec ça tous les jours, et vous allez comprendre pourquoi, la plus belle preuve de l'existence de Dieu, c'est votre présence à vous. Chaque fois que je vous regarde, je fais quand même des efforts pour être sympa. Chaque fois que je vous regarde, c'est dommage que c'est filmé parce que personne ne va y croire. Chaque fois que je vous regarde, mes amis, je me dis que Dieu est grand et que Dieu existe. Parce qu'on n'est jamais sauvé tout seul. J'avais fait allusion à ça lors d'une retraite d'éveilleurs, cette magnifique parole d'Isaac le Syrien. On ne rentre pas à la maison du Père seul, on y rentre en famille. Le Saint prend la main du pécheur et le Saint prend la main de Jésus. Passons au dernier point pour aujourd'hui, la barrière du péché personnel. Connaissez ? Alors pourquoi est-ce que je parle de William ? Eh bien, je ne sais pas si vous avez lu les œuvres de Shakespeare, et Hamlet en particulier, mais à un moment de sa pièce, donc Hamlet, l'oncle d'Hamlet, qui a assassiné son père pour monter sur le trône, avec la complicité de sa mère, il n'est pas au niveau style attachement, Hamlet, il en tient une couche. Hein. Eh bien, à un moment, Hamlet pense à tuer son oncle parce qu'il est au courant que le spectre de son père lui dit « Ta mère et ton oncle ont assassiné voilà. !» Oui, la mise en scène du 16e, c'est pas... Enfin, okay, au 16e, je dis bien. C'est pas les mises en scène d'aujourd'hui. Hein. Donc Hamlet, il veut venger son père, donc il veut assassiner son oncle. Et au moment où il sort son couteau, son oncle est à genoux en train de prier. Et voilà ce qu'il entend. J'ai paraphrasé parce que c'est un peu compliqué, hein, dans l'anglais de l'époque. L'oncle dit, après avoir demandé à Dieu de le pardonner, il dit « Je demande pardon à Dieu pour un crime dont je profite encore. » Parce qu'il est toujours sur le trône. Ce genre de prière ne dépasse pas le plafond et n'atteint jamais Dieu. Et entendant ça, Hamlet se dit « Je ne vais pas le tuer pendant qu'il prie, parce qu'avec mon bol, comme il sera en train de prier, et que la théologie d'Hamlet n'est pas très bonne, d'ici ça tombe, il va être accueilli au paradis parce qu'il est mort en priant. Je demande pardon à Dieu pour un crime dont je profite encore. » Donc ça, c'est des ténèbres qui sont en nous. Pas besoin de tuer quelqu'un pour ça. Ça nous habite à l'intérieur. On ne se rend pas compte de ça, je sais bien. Mais on ne demandera jamais assez au souffle de l'esprit de nous débarrasser de nos ténèbres. Pour comprendre ça, en fait, on va peut-être s'arrêter juste 2 minutes sur la parabole du fils prodigue. On ne va pas la relire, ça va être trop longue. Je crois que tout le monde a en tête la structure de la parabole du fils prodigue. Hein. Le gars qui demande l'héritage de son père, qui va tout dilapider, il revient, son père est content. « Ah, il est revenu, un gros câlin, on va fêter ça en faisant un banquet. » Le frère aîné revient à des champs, il dit « Qu'est-ce que c'est que cette musique ?» Il y a un serviteur qui dit « Ah, ton frère, complètement dégénéré, est revenu et ton père l'aime, il a tué le veau gras. » Et il a fait un banquet avec des musiciens pour célébrer son retour. Et là, le frère aîné, il tire une tête de 3 pieds de long qui casse du carrelage. Voilà. Cette version-là de la Bible est en cours de préparation. Donc cette parabole va nous, à mon avis, elle serait peut-être plus compréhensible de l'autre. Cette parabole va nous permettre de remettre dans son contexte notre compréhension du péché et du salut. Alors commençons par dire que le mot prodigue n'apparaît nulle part dans le texte. Ça, c'est des sous-titres qu'on a mis dans les textes. Et que, en tout cas, que ce mot ne signifie pas perdu, mais bien qu'il fait des dépenses sans compter, qui est extravagant, gaspille, etc. Alors, dans cette histoire, l'amour du père pour ses deux fils est inconditionnel. Ça, c'est quand même un truc qu'on capte normalement. Ce père, bien entendu, c'est Dieu. Et son amour est extravagant dans le sens où il aime sans compter, en fait, objectivement, sans tenir compte de ce que ses fils, de ce que les hommes font, en fait. Il les aime. Il existe néanmoins deux façons erronées de tenter de trouver un sens et un but dans la vie en dehors de Dieu, et c'est ce que dit entre autres cette parabole. Et la première est illustrée par le frère cadet. Commençons par dire qu'il a, et ça l'aide à faire des bêtises, il a une indulgence immodérée pour lui-même. Faire l'andouille, ça ne lui pose pas de problème de morale ou de conscience particulier. Ce fils veut son héritage, il le réclame du vivant de son père, ce qui à l'époque est une insulte à son père, ça en est encore une aujourd'hui. Pourtant, le père va accéder à sa demande. Il va lui donner ce qu'il lui demande. Alors, ce n'est pas de la faiblesse de la part du père, c'est de l'amour. Le cadet ne se soucie pas du tout de son père, c'est ça que ça veut dire. Tout ce qu'il désire, c'est d'avoir de quoi mener la grande vie pour son propre plaisir, avec de l'argent qu'il n'a pas gagné. Quand même pas terrible, quête. Objectivement, il mérite surtout un coup de 45 fillettes dans l'arrière-train. C'est pas ce que Dieu fait. C'est intéressant, quand même. Jésus dit, ce père-là, c'est pas ce qu'il fait. Alors, le frère aîné, pendant ce temps-là, lui, reste à la maison pour travailler à la ferme familiale, dans le domaine. C'est le bon fiston à son papa. Mais encore une fois, quand son père organise un banquet pour célébrer le retour de son fils cadet, sa réaction nous permet de découvrir la raison pour laquelle il a bien fait tout comme il faut durant toutes ces années. Il n'en a rien à foutre de son père non plus. Il n'aime pas son père non plus. Il ne l'aime pas en tant que personne. Il ne se soucie pas de lui. Il n'en veut en fait qu'à ses biens. Lui aussi, même s'il n'a pas demandé son héritage, lui, tout ce qui l'importe, c'est l'héritage. Il se souciait de ce que son attitude pourrait lui rapporter. Si je reste bien droit dans mes pompes, même si j'en ai rien à foutre de lui, j'aurai mon héritage. Même s'il a vécu sous le même toit que son père et a travaillé dans ses champs, et ça c'est vrai, il a agi pour des motifs, égoïstes. Le but de tout son travail est apparemment de gagner des points en prouvant qu'il avait de la valeur et en espérant pouvoir influencer positivement son père à son égard. Alors je sais qu'on ne pense pas à cette parabole, et on le fait, je comprends tout à fait, dans cette dynamique-là, mais quelque part, chacun d'entre nous est l'un ou l'autre de ses frères. Et on passe d'un modèle à l'autre. Bon, déjà, chaque fois qu'on juge un de ses frères ou un de ses sœurs, parce qu'il est, c'est un... Pff, franchement, tu lis même pas ta Bible tous les jours. Pff, on est le frère aîné. Et quand on fait n'importe quoi, comme si voilà, on a toujours pas de compte à rendre à personne, ouais, moi, c'est ma relation à Dieu qui compte, l'Église, j'en ai rien à battre, bah, je peux vivre ma foi tout seul, sans blague. On est le fils cadet. Et on oscille entre les deux en permanence. Parce que dans ce cas-là, nous nous préoccupons alors seulement de notre petite personne, de notre vie, de notre succès éventuel, peut-être même parfois de notre réputation, et nous ferions en fait n'importe quoi pour obtenir, même de Dieu, ce que nous voulons. Le seul problème, c'est qu'avec un cœur dans ces dispositions-là, nous allons nous sentir inévitablement loin de Dieu. L'un était loin de Dieu dans la parabole de son père physiquement, parce qu'il s'en était allé ailleurs. Et l'autre, tout en étant en permanence au quotidien avec son père, il était tout aussi éloigné. Alors, le seul remède, à ma connaissance, qu'il y a à ce genre d'attitude, c'est, encore une fois, à ne pas essayer de combler le vide par la complaisance envers soi-même, et pas non plus à tenter de cocher toutes les cases « bon chrétien », je n'ai jamais compris ce que ça pouvait bien vouloir dire, cette formulation « bon chrétien ». Ce n'est pas en cochant toutes ces cases-là non plus que l'on va être accepté mieux par Dieu ou que notre communion avec lui sera plus profonde et plus intime. La solution réside encore et toujours et uniquement dans la grâce et l'amour de notre Père, et c'est bien ce que cette parabole enseigne. Un dernier texte, un dernier verset dans la deuxième aux Corinthiens. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Pour nous adopter, il a été jusqu'à donner son Fils. Heureusement que notre Seigneur Jésus, en tant que frère aîné, n'était pas du même acabit que le frère aîné de la parabole. Qui, en passant aussi, je rappelle, est une figure d'Israël qui n'a pas rempli son rôle de témoin de l'amour de Dieu pour tous les peuples. Quand nous reconnaissons nos fautes, que ces fautes consistent en notre propre justice ou de la complaisance envers nous-mêmes, nous nous connectons à Dieu, en fait, même si on ne le ressent pas. Parce qu'une des qualités extraordinaires de l'amour de Dieu, c'est que Dieu est humble. Vous ne pouvez connecter avec lui en communion profonde que si vous l'êtes vous-même. Mais pour ça, il faut abandonner toutes vos prétentions, toutes nos prétentions, à rester dans une forme de toute puissance, à rester autonome, à rester les maîtres de nos propres vies. Oswald Chambers a un jour posé cette question. Puisez-vous votre vie à une autre source que Dieu lui-même? Si vous dépendez de quoi que ce soit d'autre que lui, vous ne vous apercevrez pas qu'il s'est éloigné de vous. Donc, et je termine en disant ça, même si nous sommes chrétiens depuis un certain temps, veillons à ne pas oublier que rester proche de Dieu n'équivaut ni à un projet continu d'auto-amélioration pour motif inavouable, comme le frère aîné, ni à une garantie que nous ne passerons pas, par exemple, par la case jugement, que nous ne passerons pas par, déjà ici-bas, par un moment où Dieu va nous dire « écoute, ça ne va pas du tout ». Et si nous ne prenons pas conscience, il va devoir parfois même nous faire passer par des trucs pas simples du tout à vivre, pour qu'enfin nous puissions recentrer sur l'essentiel. C'est une autre façon de dire que chaque étape de croissance spirituelle se base sur notre capacité à nous souvenir du pardon que nous avons reçu, parce que c'est fou comme on oublie facilement. Le rappel profond est toujours renouvelé de l'amour de Dieu, et que cet amour produit toujours les fruits inséparables de la foi, de la reconnaissance et de l'humilité. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.